J'avais mis ce rakusu aujourd'hui avec avec l'idée que ça incarne ce dont on parle souvent dans sa pratique, l'unité, la diversité. Et le fait d'inclure et à la fois singularité de chaque pièce et de cette pièce en soi, parce que c'est, il n'y en a pas un autre comme ça. Le même est vrai pour les rakusu que chacun a fait, bien que apparemment sont du même couleur, c'est le même patron dont on s'en sert, etc. Mais chacun est différent et singulier. Et en plus, chaque morceau a une histoire qui correspond à un individu. Et que chaque individu a choisi ce morceau avec une idée pour mettre ici, et ça correspond à quelque chose qui lui tient au cœur, ou même pas, ou c'est juste quelque chose qu'il avait sous main et lui donnait, etc. Et puis c'était fabriqué avec cette idée de ce que tout soit ensemble. Et offerte. Et en plus de ça, ce qui est écrit dessus nous enseigne quelque chose. C'est en anglais, c'est the mind creates the abyss, the heart crosses it. Donc l'esprit crée l'abysse, on dit? Non. Mm-hmm. Abîme, mm-hmm. Peut-être.
Deux.
Oui, on peut dire les deux. Oui. Et le cœur le traverse. C'est une autre façon de dire que, oui, avec notre intellect, notre mental, etc., on se concentre sur les différences. On les crée même. On établit noir et blanc, chat et chien, etc. On identifie ces choses, ces différences. Et c'est le cœur, donc ce qu'on appelle le non-mental, qui nous permet de les inclure comme étant pas séparés. Quand on voit les différences, mais ils ne sont pas séparés. Donc cet objet incarne tout ça. Et donc je l'ai choisi avec ça. Mon intention était de le prendre ce matin, quand j'ai ouvert ma placard pour choisir, parce que j'en ai plusieurs. J'en ai un comme ça, j'en ai un de différentes couleurs, etc. Et donc j'ai choisi ça. Car on est en plein depuis 15 jours dans cette histoire, ces histoires de séparation, non-séparation, différence, unité, tout ça. Les positions, les biens ou les mal, tort et raison, etc. etc. Et moi, depuis ces 15 jours, donc les deux vendredis soirs, j'avais abordé un peu le sujet. Enfin, non, il y avait un vendredi soir où on avait fait un cercle, c'est ça. Mm-hmm. Et puis c'est... Oui, il y avait trois vendredis. Non, il y avait que deux vendredis.
Il y a trois.
Il y a trois vendredis depuis. Ouais. Donc, oui. Le premier, on avait fait un cercle de parole parce que tout le monde avait besoin de parler. La semaine, le vendredi suivante, j'avais abordé ce sujet de la parole juste. Et puis hier, on est revenu dessus, je me souviens plus ce que j'ai dit, ce qui a été dit. Bon, à chaque fois, tout le monde a participé aussi. Ce n'est pas juste moi qui mettais son grain de sel. Et j'ai regretté l'autre jour qu'on n'avait pas enregistré les deux fois, aussi bien pour ceux qui n'étaient pas présents que pour moi, pour me souvenir ce que j'ai dit, parce que je ne me souviens pas ce que j'ai dit. Et ça me paraissait important d'avoir une trace, surtout à ce moment-là qu'on vit. Bon, là c'est enregistré, c'est l'autre chose. Oui, qu'on n'a pas enregistré aussi ce que les autres ont dit, parce qu'il y avait des choses très importantes qui étaient dites ce soir. Alors, ce que moi j'essaie de faire depuis, pas la première semaine, je pense, mais un peu après la sidération et tout ça, je suis revenue, hein, comme j'ai dit, c'est devant l'histoire, à l'essentiel de cette pratique. Et. Ça m'avait amené à ce personnage qui est clé dans notre lignée, dans notre tradition. Et c'est ce maître du 9e siècle en Chine, qui était l'âge d'or de ce qu'on appelle le Chan, qui était à l'origine du Zen, qui est Joshu. Et c'est lui qui était à l'origine de cette fameuse histoire qu'on utilise pour enseigner, pour pratiquer ce qui est mou. Donc c'est lui qui avait répondu à un disciple qui demandait est-ce qu'un chien a la nature du Bouddha. Et il a répondu mou. Bon, chaque fois qu'on lui demandait cette question, il donnait une réponse différente. Ça se trouve que c'était cette réponse qu'il avait donnée cette fois-ci. Mais quand on lui demandait quel est l'essence de cette pratique, pourquoi le Bodhidharma est venu, quel est l'enseignement principal, qu'est-ce que c'est Bouddha, qu'est-ce que c'est la voie, qu'est-ce que c'est Zen, à chaque fois qu'il y avait des questions, on peut dire qu'il donnait toujours la même réponse. Mais ça prenait une autre forme. Ce qui pointe directement à ce dont il s'agit dans cette pratique. Donc il pouvait une fois dire le chat qui s'étire. Une autre fois il pouvait dire ah, le soleil chauffe bien en hiver. Ou il pouvait dire les traces sur le sol, où il pouvait dire je me souviens le jour où on m'avait donné ça, où à chaque fois il répondait quelque chose apparemment différente, mais c'était toujours la même réponse. J'ai dit, ça pointe à ce qui est à l'essence de cette pratique, car l'essence de cette pratique, si un objectif, disons, c'est de expérimenter d'une façon directe, d'avoir cette expérience directe, ou cet apparent paradoxe, d'objet-sujet, donc ce sujet-moi, et cet objet, l'idée que je me fais de moi, ou cette idée que je fais de moi et l'idée que je fais de l'autre, ou cette idée que je fais de moi et ce qui est bien par rapport à moi, ce qui n'est pas bien par rapport à moi, etc. Donc cet apparemment, ce paradoxe, cette séparation, cette différence entre sujet et objet. On a une expérience directe où cette différence apparente est résolue. Et ce qui est révélé, c'est ce qui est cette... il appelait ça la nature de Bouddha, mais cette nature de toute chose qui est partagée, qui fait ce qu'on est uni, apparaît. Parce qu'on n'est plus accaparé par cette apparente différence. On a une expérience directe où c'est résolu ça, et ce qui est révélé, c'est cette unité. Bon. C'est très conceptuel quand je l'écris comme ça, mais les mots sont conceptuels. Et on est obligé de s'en servir. Bon, Joshua, il avançait d'une étape des concepts et il essayait de trancher d'une façon non conceptuelle en répondant directement selon les circonstances où il était. Donc, s'il y avait le chat qui s'étire devant lui, c'était le chat qui s'étire. Et à chaque fois, c'était ça. Donc, je me suis retournée à Joshua parce que j'ai toujours été, je trouvais inspirant les histoires de Joshua. Il y en a tant, il y en a tellement. J'ai un livre entier qui est juste des histoires avec Joshua. Et il y en a, je ne sais pas combien, là, il y en a. ...525, quoi, ou même plus peut-être, oui, je crois que c'est ça, c'est ça. Et dans notre tradition, on utilise, je sais pas, une vingtaine peut-être, comme histoire, comme courant pour pratiquer. Parce que ces histoires, ces incidents, ces anecdotes pointent toujours vers cette même... point essentiel qui est l'essence de notre pratique. Bon. Et en lisant ça, j'ai lu un peu son biographie. On sait très peu de lui. Bon, on sait qu'apparemment il a vu jusqu'à 120 ans. Et il vivait il est né à la fin du 8e siècle et il est mort à la fin du 9e siècle. Bref, il vivait à la fin de sa vie, les dernières 40 ans de sa vie, il vivait dans un endroit très retiré en Chine, dans un endroit qui tombait en ruine, et il y avait peu de gens autour de lui, parce que apparemment c'était très rude. Et après deux générations, on a perdu les traces de ses disciples, de ses successeurs. Donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais c'est sa ligne de succession n'était pas très forte à la suite. Bon. Par contre, ses enseignements à lui en restaient. Et une des histoires dans son biographie, il avait un certain renom quand même, et il y avait un roi ou un empereur dans le coin où il vivait, qui un jour envoyait qui était un roi qui soutenait beaucoup le bouddhisme, etc., et avait entendu parler de lui, et un jour avait envoyé un messager, un messager en français, avec une robe en soie purple, un peu comme cette de Lisa et de Christine. Et c'était quelque chose de très luxueux. Et le messager amenait ça à Joshua et dit, voilà, c'est le roi qui vous offre cette robe. Et au nom du Dharma, le roi vous offre cette robe. Et Joshua répond, pour sauver le Dharma, je n'accepterai pas cette robe. Et le messager lui dit, pour sauver la face du roi, veuillez prendre cette robe. Et Joshua répond, si c'est ça, si je prends cette robe, vous m'accorderez quelle place dans votre bureaucratie? Et le messager, bon, il part. Et il ramène ce message au roi. Il raconte ça au roi. Et peu après, le roi lui-même arrive et met la robe sur les épaules de Joshua. Et Joshua lui fait une signe de la tête. Alors, on peut prendre ça comme un Coran, comme une histoire que, mais on ne comprend pas très bien. En fait, si on comprend un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que, enfin, il semblerait que il y avait un désistement au point fixe des deux côtés, d'une certaine façon. Pour Joshua part du principe que, bon, pour le Dharma, c'est s'il va s'identifier avec une position qui est tellement bien, qu'il reçoit des super trucs luxueux, quel est le message il va envoyer à ces moines qui vivent une situation très rude, et qu'il est personne, il n'est pas une idée qu'on fait de lui, il n'est pas quelqu'un de spécial, extraordinaire, etc. Il est très simple, il vit d'une façon simple, et ses moines vivent simplement avec lui, etc. Et s'il accepte cette robe, et qu'est-ce que ça implique pour le roi de lui donner cette robe, etc., etc. Donc lui, il dit que pour le Dharma, il ne peut pas l'accepter. Le messager lui dit, oui, mais pour sauver la face du roi, il va t'humilier si vous n'acceptez pas ça. Il va prendre ça comme un affront. On dit ça un affront? Oui. Non. C'est une anglicisme.
Un affront. Okay.
Ouais. Il va recevoir ça comme un affront. Et donc, il faut le faire. Alors, Joshua lui laisse avec une autre pensée. Donc, ok, si je le prends, ça me donne quelle position pour vous? Dans votre bureaucratie, dans votre cour, etc. Vous me placez où? Alors, si j'accepte ça. C'est une façon de dire, mais ça représente quoi? Pour moi, ça représente, je peux imaginer que ça représente quelque chose, et je ne veux pas être casé dans cette représentation qu'on fait de moi en me donnant cette robe, etc. etc. Et donc il laisse ça au messager. Apparemment, le messager était assez futé pour recevoir ça, et bon, il ramène ça au roi. On ne sait pas ce qu'ils ont dit ensemble. Enfin, en tout cas, la biographie ne dit pas. On sait simplement que le prochain épisode, c'est que le roi arrive lui-même et lui met cette robe lui-même sur Joshua. Et Joshua fait un signe de la tête, de reconnaissance, apparemment. Alors, est-ce que, bon, c'est une façon d'interpréter, bien sûr, enfin, mon expérience de cette histoire, c'est que le roi, en entendant ce que le messager lui a amené, en fait, il lui donne la robe pour cette raison-là. Parce qu'il ne le veut pas. Et il ne veut pas une place. Et le roi reconnaît justement ça. Parce que le roi a compris de quoi il s'agissait, de cette pratique. Et peut-être à l'origine même, c'était ça l'intention du roi, peut-être. On ne sait pas. C'est peut-être Joshua qui n'a pas bien interprété l'intention du roi. Mais il voulait vérifier quand même. Et il voulait bien spécifier de quoi il s'agit cette pratique. Et que s'il s'agissait de ça, il pouvait l'accepter. Enfin, si ce n'était pas pour qu'on s'identifie à une position ou une autre, il pouvait l'accepter. Ce qui est important dans cette histoire, c'est apparemment ni l'un ni l'autre s'est fixé sur ses positions. Le roi est descendu de sa classe. Il n'a pas envoyé un messager. Il est venu lui-même mettre ça lui-même sur les épaules de Joshua. Joshua pouvait le recevoir parce qu'il n'était plus fixé sur l'idée que s'il accepte, il va avoir telle ou telle position, il va donner telle ou telle image. Il pouvait lâcher sa position. Peut-être justement pour sauver la face du roi. Peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire sauver la face du roi? La face du roi était déjà sauvée en fait. Mais non, parce que le roi lui-même lui a abandonné cette position qu'il avait d'être quelqu'un. Peut-être que c'est le messager qui n'a rien compris en fait dans cette histoire. Peut-être que tout ça était fait pour le bien du messager, pour que le messager réalise quelque chose. On ne sait pas. Mais on peut voir ça comme ça. En tout cas, tout le monde dans cette histoire a bougé. Bon, à la suite, je ne sais pas si Joshua portait cette robe en soi tout le temps, je ne sais pas, c'est pas dit. C'est dit, mais je n'ai pas lu jusqu'à la fin, c'est dit que quand il est mort, le roi avait dit des choses bien à son propos et a fait construire un stupa à son honneur, etc. J'étais avec cette histoire et à la radio ce matin, j'ai entendu, j'ai parlé un peu juste de ça ce matin. Après avoir lu cette histoire, j'ai entendu à la radio parler d'un film qui sort en ce moment, qui s'appelle Aklit, je crois. Je crois que c'est un film israélien, bien que l'actrice qui parlait était française, Géraldine Nakache. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais non. C'est l'histoire de trois femmes, sœurs, qui doivent retourner en Israël pour régler une histoire de succession, de maison familiale. Parce que je pense que leurs parents sont morts, je ne sais pas quoi. Et elles ont des contentieux entre elles. Et des ressentiments, et des revendications, je ne sais pas ce que c'est, les histoires qu'elles ont entre elles, mais il y a des conflits entre elles qui vont empêcher de régler cette histoire de succession. Et ça se passe en 1995, au même moment en Israël, où il y avait un grand mouvement de paix, il y avait Yitzhak Rabin qui était premier ministre, et il y avait apparemment une grande marche, moi je ne me souviens pas de ça, une grande marche de paix. Et peu après, Yitzhak Rabin avait donné un grand discours sur la paix. Et après ce discours, quand il descendait dans la foule, il était assassiné. Et cette histoire de ces trois femmes qui reviennent en Israël pour leur maison se déroule à ce moment-là. Et donc, il y a deux histoires qui se passent en même temps. Et l'actrice a dit, bien, je n'ai pas vu le film, je n'ai pas vraiment écouté tout, mais l'actrice a dit quelque chose de cet ordre, que pour enfin résoudre leurs histoires de la maison, etc., etc., chacune était obligée de lâcher leur position fixe, leurs identifications avec leur position et leurs croyances sur ce que l'autre a dit ou fait, ou je ne sais pas, etc. Mais je pense qu'elle lâchait ça à travers un processus où elles vivaient ensemble, elles parlaient, je ne sais pas exactement, mais le film tourne autour de ça. Euh, Et elle parlait du fait que ça avait des résonances avec les actualités aujourd'hui aussi. Mais c'était pas ça le principal, c'est que le film sort en ce moment, et on parle de ça. Et donc, on voit que, bon, ça c'est un exemple très, très concret, ces femmes avec leur maison, etc., ça aurait pu être n'importe où. Ça se trouve que c'est un film israélien et ça se déroule en Israël, mais c'est l'histoire de... Je sais que mon beau-frère, à New York, est embarqué dans une histoire de contentieux familial à propos de la succession, parce que sa mère vient de mourir, etc., etc., au point où ma sœur, mon beau-frère et leurs enfants étaient obligés de déménager, de quitter l'appartement où ils avaient vécu depuis 20 ans, qui était l'appartement de sa mère, que tu connais, cet appartement, et parce que les autres membres de la fratrie ont pris les avocats, etc., etc., pour les virer. Bien que c'était toujours entendu qu'ils avaient le droit de payer les charges, etc. La famille était propriétaire de l'appartement, donc il n'y avait pas de loyer, mais ils payaient les charges, ils faisaient des impôts, ils faisaient de l'entretien de tout. Ouais. C'est-à-dire que les contentieux peuvent exister dans les familles n'importe où, entre les communautés n'importe où, entre les collègues n'importe où, entre les... en soi, n'importe où, au sujet de n'importe quoi. Tant que, ou même, j'allais dire, tant qu'on n'a pas venu à l'essence de ce que c'est être ou pas être, parce que même ça, c'est une dualité, être, pas être, si on n'est pas plongé, si on n'a pas pris le temps, si on n'a pas eu le désir, peut-être, de creuser et de se pencher sur de quoi il s'agit véritablement, cette existence. Et je suis qui ? Ou je suis quoi ? On va avoir ces problèmes. Et à différents degrés. Et par moments, il y a des moments de lucidité où c'est transcendé. Transcendé dans le sens que c'est pas au-delà, c'est pas ailleurs. C'est juste qu'on a vu à travers. Même si on n'est pas très conscient, on a vu à travers et on peut lâcher notre position fixe. Que ce soit à l'intérieur de soi-même, vis-à-vis quelque chose à l'intérieur de soi-même, ou en relation avec l'autre, etc. etc. Et cette vue, cette compréhension, cette expérience, c'est le fondement de cette pratique, non ? Et quand je parlais les autres jours de... C'est difficile de traduire en français, mais ce qu'on appelle les 8 points sur la voie, entre guillemets, qui nous amènent à être libérés de notre souffrance essentielle. Ces 8 points commencent avec right understanding, c'est-à-dire compréhension juste. Ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose de figé. Il s'agit simplement, cette compréhension, entre guillemets, c'est juste de voir les choses telles qu'elles sont. De voir que c'est une apparente dualité entre sujet et objet, entre moi et cette idée que je me fais de moi, et cette unité qui fait qu'on est un. Bon, comme j'avais dit, cette incroyable histoire de Je suis Charlie, qui n'a pas duré, qui était très bref, mais le fait que ça existait, c'était un de ces moments de grâce où on a vu à travers, c'est l'équivalent de mon nom qui est tu es cela. Tous ces gens étaient capables de dire tu es cela. Pendant, bref, c'était très bref. Et c'était pas dans la tête. Bon, je vais pas faire une généralité, peut-être pour certaines gens c'était quelque chose d'intellectuel. Mais en tout cas, ils identifiaient avec quelque chose qui n'était pas eux, apparemment, qui n'était pas... La plupart de ces gens n'ont jamais lu Charlie Hebdo de leur vie et n'avaient pas aucune envie de lire Charlie Hebdo. Ou n'étaient pas dessinateurs, n'étaient pas journalistes. Il y avait des gens qui me demandaient « Ah, tu dois être vraiment secoué plus que les autres parce que tu es journaliste. » Bah, pas tellement. Pour moi, ce n'était pas tellement une histoire d'être journaliste qui était secouée. On n'avait pas besoin d'être journaliste, dessinateur, fan de Charlie Hebdo, etc., etc. Bon, ça se trouve que, et comme Delphine avait dit très justement, qu'on avait dit, il y avait beaucoup de monde, et elle avait dit oui, mais il n'y avait pas tout le monde. Et ça, c'était important aussi, qu'il n'y avait pas tout le monde. Bon, qu'est-ce qu'on dit quand on dit il n'y avait pas tout le monde? Il y avait quand même, et ça m'avait frappé les premiers jours quand je voyais les photos dans la presse, tout le monde ressemblait plus ou moins à moi dans ces photos. Bon, il y avait différents âges, évidemment, il y avait différentes sortes de personnes, mais plus ou moins. Plus ou moins les... Je disais à quelqu'un, oui, à ma famille aux États-Unis, je connais très peu de gens qui ne sont pas allés dans ce marche ou qui ne sympathisaient pas avec ça. Mais ça ne veut rien dire parce que ça veut dire simplement, je parle de mon entourage qui forcément ressemble à moi, me ressemble. Donc, mais bon, au-delà de ça, c'était déjà phénoménal ce qui s'est déroulé. Pas dans le sens que c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue de ma vie, mais ça parle de quelque chose. Je pense qu'on n'a pas fini de savoir de quoi il parle, mais bon, ça parle de quelque chose. Et cette capacité, ou cette expérience que des milliers de gens, et même pas uniquement en France, partout, à adhérer, entre guillemets, à cette « je suis Charlie », c'est équivalent de « tu es cela », ce qui est mon nom dedans. Pour un instant, on était capable de ne pas être juste moi. Bon, comme j'ai raconté hier soir, c'était limité. J'ai raconté hier soir que quelqu'un m'a dit qui était témoin de ça, que dans ce foule, il y avait un franciscain qui avait un panneau, un pancarte, sur lequel il avait marqué le nom des 20 personnes qui sont mortes dans ces attentats. Ouais. La plupart des gens disent qu'il y a 17 morts. Ce franciscain avait pris position, entre guillemets, le fait est qu'il y avait 20 personnes qui sont mortes dans cette histoire. Et il a mis tous les noms. Alors, il était pris à partie par des gens dans la foule qui étaient très violents et l'ont même arraché le panneau. Et il ne pouvait plus le porter, le pancarte. Il a essayé d'expliquer sa démarche, de quoi il s'agissait. Il ne voulait pas entendre les gens. Je ne sais pas si c'était une énorme foule, mais il y avait quelques personnes au moins qui n'étaient pas d'accord. Et il lui a arraché le truc. Et la personne qui m'a raconté ça était très secouée par ça, par cette expérience de ce qu'il avait vu, parce qu'il était témoin de ça. Et ça ne correspondait pas à ce que lui, il vivait comme l'esprit de pourquoi on était là. J'étais un peu étonnée d'entendre la violence avec laquelle quelqu'un a réagi à ça, parce que moi, il y avait plein de panneaux différentes, de toutes sortes. Il y avait des drapeaux de toutes sortes de pays, de choses, etc., etc. Je n'ai vu personne qui insultait, qui contestait, qui... Mais bon, encore une fois, c'était très limité là où j'étais, dans la foule. Mais c'est un exemple où quelques gens ont pris position, même quand ils étaient dans une foule qui était censée être au-delà des positions. Ils ont pris position contre le fait qu'on avait mis les 20 noms, qu'on avait mis les 3 noms.
Le franciscain aussi a pris position.
Quoi ? Le franciscain aussi.
Il a dit pour le dharma, je ne prends pas la robe.
Voilà, exactement. Oui. Et puis il a cédé. Et il a, enfin, Joshua, on peut dire, il a cédé dans le sens que pour le dharma, il a pris la robe finalement. Il était capable, il avait la liberté d'expression de dire ou pas dire. Parce que la liberté d'expression comprend aussi la liberté de ne pas dire. Je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, selon la loi, on a le droit de ne pas dire, de ne pas... c'est une histoire de droit, mais il y a une protection dans certaines situations où on a le droit de ne pas dire. Bon, je ne voudrais pas déborder sur la liberté d'expression, mais plutôt sur cette idée que oui, on peut prendre position et selon les circonstances, la position change. Ce qui est la réponse adéquate change selon l'évolution de la situation. Il était capable de lâcher une position, Joshua, pour le dharma, je ne prends pas cette robe. Et comme une situation, bon, sa réponse maintenant, ce ne sera plus les chats, le chat qui s'étire, parce que les chats ne s'étirent plus. Le chat dort. Et donc il était capable de lâcher sa position, sa réponse ne va pas toujours être « je ne porterai pas cette robe ». C'est « selon ». Alors là, pour avoir cette liberté de ne pas se figer quelque part, il y a une profonde réalisation qui s'exprime dans ça. Une profonde réalisation de ce que c'est la nature de la vie, ce que c'est son identité, il n'est pas identifié avec une position ou une autre. Ça, c'est une grande, grande liberté. Mais cette pratique, c'est une pratique de liberté, de libération. Bon, j'imagine que pour revenir à l'histoire du franciscain et son pancarte, j'imagine qu'il a lâché, qu'il n'a pas essayé de battre avec des mecs et... ni de récupérer les morceaux et le brandir. Il a essayé d'avoir un dialogue. Apparemment, le dialogue a échoué. Et apparemment, il a continué de marcher. Selon la personne qui m'a raconté cette histoire, il a quand même marché. Le franciscain, il était avec d'autres gens, etc. En fait, c'était un truc inter... Il y avait des bouddhistes, des chrétiens, les juifs et des musulmans dans un groupe qui marchaient ensemble. Et ce franciscain faisait partie de ce groupe.
Et c'était des gens extérieurs à ce groupe qui ont arraché la
pancarte. Oui. D'accord. Ils étaient dans la foule. Ouais, ils avaient leur pancarte, ouais. Comme tout le monde avait leur pancarte. Ça m'avait fait penser à autre chose, mais je ne me souviens plus. C'était un autre exemple de ça, mais je ne me souviens plus. Donc cette Oui, ça nous ramène toujours à cette question essentielle. Quand je dis moi, je pense ceci ou moi, je fais cela, c'est quoi moi? C'est qui moi? Et c'est vraiment le point de départ, parce que si on n'est pas... Si on ne va pas à l'origine de ça, on va agir selon une position qui... Et on va avoir les conséquences. Et on le voit. On voit tous les jours dans tout ce qui se déroule dans ce monde, mais on le voit très précisément dans cette situation-là. Que si on agit d'une position fixe, où on est attaché à une position... conséquences problématiques. Et j'allais dire des deux côtés, mais c'est des côtés multiples. C'est pas juste deux côtés. C'est ça aussi, c'est dans tous les sens, les positions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a lu cet article de Dalibor. Je crois qu'il n'y a que vous deux qui connaissez Dalibor. Non, toi, tu connais Dalibor aussi.
Je n'ai pas lu l'article.
C'était en eBay il y a quelques jours. Dalibor, c'est quelqu'un qui avait pratiqué autrefois avec Brigitte, mais on l'a connu. Tout. Et qui est un écrivain, qui est devenu un écrivain. Un romancier, il a fait deux romans, et donc il avait un papier dans Libération où, et je trouvais que c'était très, très juste, où il disait que ce qui revient à ce que je dis, enfin, ce que nous on dit ici, je voyais l'influence de la pratique de Dalibor dans ce qu'il racontait, c'est que ça dépend toujours de la situation. Donc, ce qui fait rire les galeries des Parisiens intellectuels, professionnels, d'une certaine situation sociale, culturelle, économique, position politique, etc. Ce qui fait rire laïque, etc. Ce qui fait rire ces gens-là, ça ne va pas forcément faire rire les paysans, enfin, fond d'Anatolie, ou quelqu'un qui est très croyant à Madrid, ou quelqu'un dans une cité à Saint-Denis, ou même quelqu'un qui est très identifié avec sa communauté militaire, parce que c'est anti-militariste aussi, Charlie Hebdo, etc. Et ce qui va faire rire les gens dans les autres communautés ne va pas forcément faire rire les gens de parisiens, etc., etc. Et c'est un peu ce truc qu'on dit toujours, c'est que il n'y a que les juifs qui peuvent raconter les vannes juifs. Les gens qui ne sont pas juifs ne peuvent pas raconter les vannes juifs. Bon, c'est un peu un stéréotype, mais c'est un peu comme ça. Et où Jamel, par exemple, peut raconter tout un tas de choses sur les musulmans, sur les quartiers, etc., etc., que quelqu'un d'autre ne peut pas raconter. Quelqu'un, je ne sais pas, Michel Leeb, ou je sais pas, un comédien comme ça, au hasard. Et donc, il dit, et il prenait cet exemple très précis, où en plus, ajouter à ça, quand c'est une communauté qui se sent exclue, humiliée, qui n'a pas accès à cette image qu'ils font de cette culture qui se moque. Ils vivent ça comme étant, ils se moquent de moi, de ce qui fait ma communauté, auquel je suis identifiée, même si je ne suis pas croyant, je ne vais pas à la mosquée, etc., etc. Ça fait partie de ce que c'est mon identité, ma communauté, etc. Si en plus je me sens exclue, et je suis exclue, je n'ai pas accès, je suis humiliée, je vis dans les conditions immondes parfois, à l'oubliette, en marge, et en plus on rit de moi, alors il ne peut que voir des problèmes. Et de ne pas voir qu'on se moque de quelqu'un dans ces situations-là, c'est une forme d'ignorance en fait, qu'on ne prend pas en considération la situation globale de la chose, c'est une forme d'ignorance. Ça n'excuse rien de la réaction, ce n'est pas une apologie pour aller tuer quelqu'un, ce n'est pas non plus une histoire de « ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils disent ». Ce n'est pas une histoire de liberté d'expression, là. C'est, bon, il ne dit pas d'aller voir, mais ça revient à cette histoire de right speech. De qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est selon la situation. Ah oui, je sais de ce que je pensais. Parce que cette notion d'approprier, j'entendais récemment, enfin, quelqu'un m'a raconté qu'elle était en Turquie, il n'y a pas longtemps, pour un rassemblement pour l'anniversaire de naissance de Rumi, la grande poète soufi Rumi. Et parce qu'elle a une pratique soufie, cette femme. Et donc elle était dans ce grand rassemblement dans la ville natale de Rumi, qui à l'époque n'était pas turque, je pense. C'était perse peut-être, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, mais bon. Et il y avait plein de gens de partout dans le monde. Et le soufisme, c'est une branche de l'islam qui est un peu à part, qui est un peu comme le zen dans le bouddhisme. C'est un peu à part et c'est et donc ils n'ont pas les mêmes. C'est pas si rigide, etc., etc. Et donc les femmes allaient aux mosquées avec les hommes, et tout le monde était intégré, etc. Et il y a ces danses soufies qui sont très importantes, etc. Et cette femme avait une femme, je pense turque, qui était désignée pour l'accompagner partout. C'est une jeune française. Et elle avait cette femme turque qui était censé le chaperonner d'une certaine façon. Et à un moment, elle était prise dans les lampes, des trucs, etc. Il y avait un homme qui lui prêtait beaucoup d'attention, et elle était un peu séduite par l'homme, etc., etc. Et la femme turque l'a pris à part et l'a dit, tu es une princesse ici, il faut que tu te conduises en princesse. Attention. Et l'avait plus ou moins écarté de la situation. Tout ça pour dire que selon la situation, qu'est-ce qui est approprié? Dans ce contexte-là, ça aurait été inapproprié apparemment, et je sais que, ayant voyagé très peu, mais au Maroc par exemple, une femme occidentale comme ça doit faire attention parce qu'il faut qu'elle fait attention à ce que c'est des rites, quels sont les comportements, qu'est-ce qui est attendu et pas attendu. On est censé, bon, on sait bien que en général dans les pays arabes on est censé couvrir sa tête des femmes, porter les manches longues, ne pas aller en petite short, etc. Il y a certaines choses à respecter, selon les coutumes, ce qui est approprié ou non. Et heureusement que cette Française a eu quelqu'un qui était probablement désigné pour l'accompagner, justement pour cette raison-là, pour qu'elle reste dans ce qui est approprié. Si c'était une espèce de raout Avignon entre les danseurs, s'en fiche. Le jeune homme le séduit, elle part avec lui, s'en fiche. Mais c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes situations, c'est pas la même culture, etc., etc. Et donc, faut faire attention. La femme disait.
C'est sauver la face du roi.
Voilà. Exactement.
C'est important, en fait.
C'est très absolument. Important. C'est très important. Très important. Et est-ce que je peux lâcher mes positions? Est-ce que j'ai l'humilité de ne pas être figée sur ma position pour, justement, reconnaître l'autre? Ça ne veut pas dire que l'autre... on doit céder à ce que l'autre exige. Ça ne veut pas dire que Charlie Hebdo, les mecs devaient soumettre. Bon, ça se trouve qu'il y a ce même moment, il y a ce truc de Michel Houellebecq. Bon, je n'ai pas lu, je ne pense pas que je vais le lire, mais bon. Il ne s'agit pas de soumission, justement, de l'un côté ou de l'autre, dans cette sauver la face du roi. Ce n'est pas... C'est vraiment la position de plus grande liberté d'avoir cette humilité. Humilité ? Non, humilité. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas fixée sur une identité ou une autre. Et apparemment, moi, mon expérience de cette histoire avec le roi, c'est que le roi, peut-être grâce à cette action de Joshua, a vu, a compris. Il est descendu de sa position, il est venu lui-même. C'était pas, il restait figé dans son truc, envoyer un messager pour le faire.
Je me suis dit, en fait, le messager, en rapportant le message de Joshua, il rapporte une autre robe, la robe de libération.
Voilà. Exactement. C'est ça, et c'est cette robe de libération dont on parle. Exactement, bien, bien. C'est exactement ça. Parce qu'on chante, c'était la robe de libération. Et c'est vrai que c'est vaste. C'est tellement vaste qu'on ne peut pas voir le début ou la fin. Et ça change à chaque instant. Maintenant, c'est le chat qui est au soleil. Donc voilà. Une heure et demie, on va s'arrêter. Donc, est-ce que vous voulez dire les choses? J'ai l'intention de faire un cercle de parole cet après-midi. Donc, on a la possibilité de s'asseoir de nouveau et puis parler. Mais j'aimerais bien savoir si
moi, quelque chose qui... ce franciscain, il m'a dit je suis chacune des personnes. Et il a aussi dit je suis. Chacun des frères Kouachi, je ne me souviens plus de leur prénom, et je suis Koulibaly. Dans des pays, dans les pays où il y a des révoltes dans le sens inverse, il y a des gens qui disent je suis les frères Kouachi et je suis Koulibaly. Mais ils ne le disent pas de la même façon des deux côtés. Est-ce que tu peux
parler de certaines... Moi, je pensais à un truc comme ça qui me perturbe beaucoup, c'est Dieudonné. Qui a dit je suis Charlie Koulibaly.
Et il a été arrêté.
Il a été arrêté, emprisonné. Et que, c'est-à-dire, soit c'est cet esprit-là, c'est-à-dire je suis du côté de la haine, de la destruction, du meurtre, et c'est évidemment impossible à entendre. Soit il essaye de dire quelque chose qui n'est pas entendu, et dans ce cas-là, c'est encore pire.
C'est grave.
Tu vois, s'il fait la même chose que le franciscain, il dit je suis aussi Charlie et aussi Koulibaly, qu'il essaye d'unir, enfin, je veux dire, qu'on lui dit non, toi, t'as pas le droit de t'unir, c'est pire. Enfin, je ne sais pas pourquoi en penser.
Oui, je pense qu'avec l'histoire de Dieudonné, on a l'habitude, on a peut-être une idée fixe sur Dieudonné qui est. Une incitation à la haine, focalisé sur la séparation, etc., etc. Et donc, je pense qu'on a agi, les autorités ont agi en fonction de ça. Que si on dit, si on se fixe dans une position d'absolu où on peut tout dire, où tout le monde dit la même chose, on va avoir les problèmes parce qu'il faut voir les motivations. Est-ce que, je ne sais pas pour lui donner, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, et je ne sais pas est-ce qu'il avait donné une explication de ce qu'il avait dit, je ne sais même pas.
Je ne suis même pas sûre qu'il était emprisonné pour ça. Hein.
Non, il était condamné.
Non, il a été en garde à vue.
Il
a été en garde à vue et il
a été arrêté pour ça.
Il a été arrêté pour ça.
Voilà. Il est en garde à vue.
Oui, mais lui.
Mais je ne sais pas s'il a expliqué sa geste ou.
Non, mais je pense que l'interprétation de son geste, c'est que Koulibaly, il a tué des juifs. C'était, et il a une position antisémite. Et c'est ça, je pense que c'est ça.
Bien sûr.
Enfin, c'est pour ça. Je ne le justifie pas. Moi, je me posais la même question. Je me dis, mais où est la liberté de, où arrête et la liberté d'expression?
Dans le droit français, c'était l'incitation à la haine. Et le problème, c'est qu'il est en permanence dans cette ambivalence-là. Il joue sur cette ambivalence-là. Donc, on peut facilement se cacher. Et quand il y avait eu ce report, quand il, en 2006-2007, quand il y a eu le procès de Charlie Hebdo, contre Charlie Hebdo, lancé par les institutions représentatives de l'islam en France, Dieudonné était venu au tribunal, non pas dans l'audience, mais à l'extérieur, pour soutenir Charlie Hebdo. Mais en même temps, il venait et il disait « Laissez Charlie Hebdo taper sur les musulmans et laissez-moi continuer à taper sur les juifs. » C'est pas du tout. Et là, on voit toute l'ambivalence et la problématique du truc, quoi. Parce que c'est pour le coup, Charlie Hebdo était pas du tout dans ça, et du coup, la position de l'avocat de Charlie Hebdo était excellente. Et il a dit, ceux qui l'accusaient, vous voulez un traitement de faveur. Non, vous voulez être au même sur les mêmes, au pied d'égalité avec les mêmes autres religions. Est-ce que vous voulez subir d'une certaine manière ce que les desseins qu'on fait subir aux catholiques? Il a sorti des trucs absolument dégueulasses, enfin, les trucs de Charlie Hebdo sur les catholiques. Et puis sur les juifs, vous voulez ça? C'est ça que vous voulez? Vous voulez être traité comme ça? Vous voulez qu'on fasse des desseins comme ça? Et là, ils ont vu, ils ont rigolé. Ils ont été obligés de l'admettre, ils ont rigolé, et ils ont perdu. Enfin, Charlie Hebdo a gagné, ils ont été déboutés, les plaignants. Donc il y a une ambivalence qui est compliquée dans son
cas. Oui, je crois
que
c'est
ça. Et pour revenir à notre pratique...
Tu veux dire que c'était quand même plus respectueux ce qui a été défini sur l'islam?
Oui, en fait, oui, c'est ça qu'il disait, parce qu'il disait « Oh, vous nous attaquez, c'est discriminant, etc. » Ah bon, donc vous voulez avoir le même traitement que les autres? Bon, ben d'accord, ok. Donc je vais vous montrer ce qu'on fait avec les autres religions. Et puis là, ils sont sortis des horreurs, les dessins de Charlie Hebdo, quoi. Comme il y en a eu avec les prêtres catholiques, avec les catholiques là dans le dernier. Voilà. Vous voulez qu'on aille dans ce sens-là? Ok.
Et puis Charlie Hebdo a quand même pris position contre les menaces au moment de quand ils ont republié les dessins des sénateurs danois. Ils ont pris position, ils étaient les seuls au monde qui ont pris position en les républiant. Tout le monde avait peur. En Angleterre, c'est ça. Les gens ont peur de publier ça. Ils ne voulaient pas publier la page, même la page de Nouveau Charlie Hebdo.
C'est pareil, le New York Times.
Aujourd'hui, donc les grands journaux anglais, c'est pareil. Et Sky News a dit en début de matinée, on ne va pas montrer. Et quelqu'un est venu être interviewé, elle l'a sorti, et on l'a sorti. Moi, je ne l'ai pas vu parce que j'étais au travail ce jour-là, mais je l'ai lu, qu'elle l'avait caché, et puis elle l'a montré, et elle est sortie du plateau.
Pour revenir à Jojo, ce qui est intéressant, c'est que les deux bougent de position.
Exactement.
Et là, le problème, c'est, on aurait pu dire, bon, bah, on va arrêter, si on est à la rédaction de Charlie Hebdo, on va arrêter, c'est trop traumatisant, on va faire une sur toute autre chose, on ne va pas représenter, etc. Et donc, eux, ils ont fait quelque chose qui est un peu...
Entre deux,
en fait. Mais même ça, ce n'est pas acceptable. Donc, l'autre ne bouge pas non plus. Donc, comment on traite ça? C'est ça qui est compliqué.
Oui, et bon, peut-être que dans l'histoire de Joshu, le roi a pu bouger parce que Joshu a bougé. Peut-être que c'est souvent ça, c'est qu'il faut que quelqu'un bouge d'abord. Et bon, dans ce cas précis de Charlie Hebdo, j'ai aucune réponse. Je pense que
je ne sais pas si c'était le cas, mais j'y ai pensé quand tu parlais de ce film et que ces trois sœurs, elles vont se réconcilier. Et en fait, si j'ai bien compris, dans un contexte où il y a l'assassinat d'Isaac Rabin. Et moi, j'ai vu beaucoup de patients et notamment, je vois beaucoup de couples. Et beaucoup de couples, quand ils viennent me voir, en général, ils sont en conflit. Ce qui était, pour beaucoup d'entre eux, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait tomber tous les conflits. Il y avait autour de cet événement l'idée de l'union, c'est-à-dire l'envie de mettre en avant là, non pas ce qu'on met en avant d'habitude, mais l'union, ce qui s'est passé quand on est tous descendus dans la rue, c'est l'union. Et je me dis que il y a quand même des moments quelque chose se déchire et l'évidence apparaît.
Et c'est souvent les énormes événements.
Voilà, comme je pense l'assassinat d'Isaac Rabin a fait ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que nos conflits en regard de ça, de ce type d'attaque, de ce type de tentative d'écarter tout le monde.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Et même si ça ne dure pas longtemps, que ça existait, ça change des choses.
Exactement. Qu'il y avait une ouverture et que cette expérience change quelque chose. Oui, tout à fait. C'est intéressant que ça se passe dans les vies des gens, dans les couples. Oui. Bon. On va s'arrêter pour manger. Hein? Ok.